Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Figeac. Hier, vous étiez avec Antoine Lee à Folembray dans l'Aisne. Et nous, aujourd'hui, on est à Figeac, dans la vallée du Lot et sur les rives du Célé. Ici, c'est l'aventure, qu'on barbote dans les rivières en pleine nature ou qu'on se passionne pour les écritures. Ces maisons, elles ont vu naître Jean-François Champollion, celui qui déchiffra les hiéroglyphes, plane comme un spectre dans la région. Sur le sol, il y a une pierre de rosette géante et dans le ciel, un vol de colombes dessine une croix pour signifier à Pépin le Bref qu'il faudrait s'installer là. Alors Pépin a crié « Fiat, là !» ce qui veut dire « On s'installe ici !» Et nous aussi, à France Inter, on pose notre micro entre le Nil et le Lot. Jadis, je venais en week-end à Figeac voir ma copine Marie. C'était chouette. On parlait des garçons en mangeant de la pompe à huile. La pompe à huile, c'est ma madeleine à moi. Un gâteau figeacois fait avec 100% d'huile et 200% de sucre. Et quand t'es au bout du rouleau, tu rajoutes du Nutella. Figeac, c'est un peu tout ça à la fois. On se roule dans les papyrus, la tendresse et le foie gras. La tendresse, on la sent partout ici, sur les pierres de Figeac, depuis Ramsès. La preuve, on va rencontrer des fraternités sur ce marché. Des gens qui se fédèrent pour le retour du train, d'autres qui imaginent les maisons de retraite du futur avec les jeunes et les anciens. Il y a aussi le maire d'un village voisin qui donne gratis des terrains pour qu'on vienne s'installer. Et puis il y a Régis, le prof de musique qu'on aurait adoré avoir dans son lycée. On s'est tous installés ici sur la terrasse de chez Claudie, au café, le Champollion. On dit le Champeau ici, Claudie ?
Oui, c'est le Champeau.
Le Champeau, c'est un des plus vieux bistrots ?
Ben, je suis la plus ancienne, effectivement, cafetière de la ville. Ça fait 41 ans que je suis là.
Vous connaissez tout le monde ici ?
J'ai eu plusieurs générations. Je sers actuellement les petits-enfants de mes premiers clients.
On est bien ici ?
On est super bien, avec un soleil radieux et des gens très chaleureux.
En face de la halle, en face du marché, et avec nous, vous êtes là aussi, Marie-Hélène Potier.
Et le Champeau est installé en face du musée Champollion.
Ah, c'est la grosse bâtisse là ?
Oui, le musée c'est la grosse bâtisse, couverte d'écritures du monde entier.
Il est à notre droite.
Oui, le musée est caché par les parasols du marché, c'est vrai, mais sinon il a fière allure avec ses grandes fenêtres et qui s'ouvrent sur la ville.
Ça va, vous êtes bien installé, vous avez tout ce qu'il vous faut, un peu de café, un peu d'eau.
Tout va bien, tout va bien.
Il y a des écritures partout ici, tout est écrit sur les murs.
Il y a aussi de l'oral, hein, la preuve, c'est qu'on parle beaucoup, Figeac.
On va parler tous ensemble ici, mais juste avant de plonger sur ce marché, sous la halle, avec vous, Marie-Hélène Potier, on va écouter un peu de musique, je suis sûre que vous aimez la musique. Michel Tessédou, vous allez me dire ce qu'on va écouter.
Ben, on va écouter Bertrand Burgala, l'homme idéal.
Et la programmation, c'est Djoubaka.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Tes tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant ?
Souvent, on me demande mes trucs.
C'est quoi vos trucs ?
Mon secret.
Vos secrets ?
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis ?
Comment vous faites pour être ?
Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon ?
Eh oui. Forcément.
Si vous,
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza. Laquelle?
Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc ça savoure et profite. L'ami idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
Rendez-vous Place du Marché. Aurélie Spèze sur France Inter.
Marie-Hélène, est-ce que Champollion était un homme idéal?
Pour moi, c'était un homme idéal. Pendant 20 ans, je l'ai fréquenté et c'était un plaisir.
Et nous, on va fréquenter ce marché toutes les deux. Allez, on y va. On vous retrouve tout à l'heure?
Absolument, je reste immobile.
Bon marché, bonne balade. Il y a plein de choses belles à voir.
Vous m'attendez au café?
Captez les belles phrases. La belle oralité, c'est à Figeac.
La belle écriture, la belle oralité.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Allez, à tout à l'heure. Bon café.
Je vous suis. Vous me suivez.
Non, c'est moi qui vous suis.
Vous me suivez.
Marie-Hélène Potier. Vous savez que votre nom, c'est un aptonyme. C'est-à-dire que vous êtes archéologue et vous vous appelez Potier. L'aptonyme, c'est on a le nom de son métier, ou en tout cas qui ressemble un peu à son activité.
Je pense qu'effectivement, ça remonte à très loin, parce que ce nom, il vient du nord, d'une région où il y a un village qui s'appelle Sarre-la-Poterie. Donc je pense qu'il y avait de la bonne terre pour faire des pots.
Alors vous êtes l'ancienne conservatrice du musée Champollion, Marie-Hélène.
Oui.
À la retraite aujourd'hui?
À la retraite depuis quelques années, mais j'ai passé 22 ans avec Champollion, ce qui était une compagnie très agréable. Et on a ouvert ce musée il y a déjà 13 ans.
Cette maison, c'est celle qui a vu naître Jean-François Champollion, qui a dit « Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi ». Il est né ici, à Figeac, et il a été élevé par son frère.
Sa mère était figeacoise et son père était du Dauphiné. Ses parents étaient là, mais le père était très occupé par sa boutique, puis il allait faire la fête au phare de Beaucaire en général. Et sa mère était une personne plutôt effacée, elle ne savait pas écrire. Et c'est son frère aîné qui s'est chargé de son éducation, on va dire. Il est parti très vite, à 11 ans, il a quitté Figeac, son frère l'a emmené à Grenoble pour le mettre au lycée, le surveiller. Après, ils sont revenus à Figeac plusieurs fois, dont une fois en exil, puisqu'ils ont été... C'était des démocrates libéraux, les deux Champollion, Jacques-Joseph et Jean-François. Ils ont tout de même connu 7 ou 8 gouvernements différents, entre la Révolution française et puis jusqu'à Charles X, ça fait beaucoup. Et ils ont, lorsque le roi est revenu sur le trône, ils ont été très mal vus, traités comme des gens dangereux.
Ah bon ?
Et on a des lettres du préfet d'ici qui dit « mais ils sont là, et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont intelligents ». Alors que c'était des gens extrêmement corrects et pas du tout des fous militants. Mais ils avaient été proches de Napoléon, qui leur avait proposé d'éditer leurs travaux de recherche. Donc c'était de toute façon très mal vu.
On est en train de déambuler là. On marche dans ce marché sous la halle. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces maisons à colombages, dans ces façades? Peut-être des écritures ici. Qu'est-ce qu'on a qui nous renvoie justement à ces premières écritures? Vous connaissez chaque pierre de ce village?
Oui, presque. Mais effectivement, vous parlez d'écriture des maisons. Et surtout, on lit les maisons. On fait de l'archéologie aérienne, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on voit toutes les traces de l'histoire de la maison depuis le Moyen-Âge. 12e, 13e, 14e siècle. Et avec des greniers ouverts, ce qui vraiment fait la marque de fabrique de Figeac.
Comme celle-ci en face de nous, là.
Voilà, exactement. Et qui servait à sécher tout simplement les produits de la terre. On faisait ici sécher les châtaignes, les noix. On se nourrissait beaucoup de légumineuses et de légumes secs.
Marie-Hélène, vous parlez des écritures et ce musée Champollion, qu'on appelle aussi musée des écritures du monde, qui est ici à Figeac. Dans ce musée, on y voit des écritures cunéiformes, des glyphes, des écritures grecques, des écritures arabes, hébraïques. On voit toutes les écritures depuis la naissance de l'écrit. Et aujourd'hui, cet écrit se perd. Le geste d'écrire se perd.
Alors, vous avez raison, l'écriture ne se perd pas.
Le geste de la main se perd.
Le geste se perd, effectivement. C'est un autre geste, vous avez... Et un geste qui est très réduit, évidemment. Ceci étant, ça peut redevenir un art. Il y a là de la calligraphie. Mais les choses évoluent, donc la main servira peut-être à d'autres gestes.
Mais vous parlez au futur, ça veut dire que vous pensez qu'on n'écrira plus avec un stylo?
On écrira toujours avec un outil tenu dans la main, y compris avec le doigt. Vous pouvez écrire sur le sable, vous pouvez écrire sur la terre. Je dirais presque inhérent à l'homme. À la préhistoire, les hommes ont déjà gravé, peint sur les parois. Et l'homme a toujours voulu laisser des traces derrière lui. Et l'écriture est une trace.
Est-ce que l'écriture numérique est une trace durable ?
Si on a des outils pour la lire, c'est un gros problème, effectivement.
Oui. C'est une écriture qui s'efface, palimpseste, une autre écriture se met par-dessus.
Alors que les hiéroglyphes sur la pierre des temples en Égypte ne s'effaceront pas, quasiment jamais, on peut dire. Oui.
Ça vous fait peur, ça, un peu ?
Il faudra s'adapter, l'homme s'adapte à tout.
On est sous la halle du marché. Et alors je vais vous suivre parce qu'on va faire un peu d'archéologie radiophonique.
Oui.
On va voir des gens.
Là, vous avez la famille Moulaine qui a une superbe ferme. On peut même leur demander ce qu'ils font exactement.
Bonjour la famille Moulaine.
Bonjour, mais enchanté.
Vous travaillez en famille ?
On travaille en famille et on est en train d'ouvrir la famille à des gens qui ne sont pas de la famille. Nous sommes dans une phase où on va transmettre la ferme. Et là, à la fin de l'année, c'est 6 jeunes qui vont reprendre la ferme, dont 5 ne sont pas de la famille.
Donc vous les avez formés, ces jeunes ?
En partie, mais pas seulement. Ils sont venus avec leurs compétences. Et par contre, on a passé 3 ans à préparer cette transmission avec eux.
Est-ce que ça vous fait un petit pincement au cœur de laisser la ferme à quelqu'un qui n'est pas de votre famille ? Ou au contraire, eh ben, c'est la vie, il faut, voilà, faut avancer, il faut ouvrir la ferme ?
Non, il n'y a pas de pincement au cœur. En fait, c'est une ouverture extraordinaire de dire qu'en fait, il est possible de transmettre une ferme à ceux qui ont véritablement envie de la faire fructifier.
Et là, il y a un jeune homme à côté de vous. C'est un des enfants ou c'est un repreneur de la ferme ?
C'est un repreneur de la ferme, c'est Jérémy.
Bonjour Jérémy, ça vous fait plaisir de reprendre la ferme ? Vous avez un grand sourire, vous, hein ?
Ouais, je suis plutôt content de reprendre la ferme.
Vous avez l'air bien content de reprendre la ferme, je crois.
Ça me plaît bien. En fait, c'est la dynamique aussi autour de cette reprise et l'accueil qu'on a eu aussi.
Donc vous allez être en communauté sur la ferme, j'ai l'impression. Une espèce de collectivité.
En collectif de travail. Ouais. Œuvrer ensemble pour produire de bons produits, ouais.
Ça va faire bientôt 3 ans qu'il travaille avec nous et qu'il a monté son activité de maraîchage avec sa compagne. Mais là, on est sur le moment, d'ici la fin de l'année, où on passe la main.
Il est prêt ?
Oui, il est vraiment très prêt, ouais.
À quoi on voit qu'il est prêt ? Les qualités d'un futur fermier ?
Il est prêt parce qu'il est très autonome, en fait. Et ils se sont déjà organisés pour être autonomes, à la fois autonomes et solidaires. C'est-à-dire que chacun est responsable d'un atelier, d'une partie de la ferme, mais en binôme, de façon à pouvoir être autonome et pouvoir se remplacer s'il y a besoin. Et donc, en fait, il y a une organisation qui dépasse largement celle que nous, on avait mis en place. Et donc, ils iront sans doute beaucoup plus loin que nous.
Ils vous dépassent ?
Ils nous dépassent, avec grande joie.
Ça vous plaît de transmettre ?
Ça me plaît de transmettre, ça me plaît. Tout ce que je fais me plaît, en fait. Du coup, j'ai toujours mis beaucoup de cœur à tout ce que je faisais, et donc à ça aussi.
Et alors, il faut venir ici, à la ferme de la Rose, R-A-U-Z-E, et non pas la Rose, la fleur, manger de la purée de pommes Reine Claude, des rillettes. Il y a de la farine de sarrasin, il y a du jambonneau.
Vous voyez, ils ont beaucoup de pain. Il n'y a plus que l'affiche parce que tous les pains ont été vendus aujourd'hui. Et en fait, ils le font avec le blé qui pousse sur leur terre.
Donc, vie à vous.
Merci.
Ça va rouler.
Merci. Au revoir Aurélie. Bisous.
Hola, France Inter. Fijacois, Fijacoise. Aristide, vive voix. Le média humain public de la ville de Figeac. Une idée de la mairie. Et pourquoi pas un jour se repostillonner avec vigueur et courtoisie, ensemble, pour le futur de nos enfants peut-être, n'est-ce pas ? Comment allez-vous ?
Mais ça va, mais qui êtes-vous ?
Eh bien, je l'ai dit, Aristide Vivevoix, c'est celui qui donne les nouvelles du village, de la ville.
Vous le connaissez, Aristide Vivevoix, Marie-Hélène ?
On l'aperçoit dans le marché, alors il va voir chacun, il leur dit des petits mots, il leur lit des textes, c'est super.
Aristide Vivevoix, vous êtes habillé avec une redingote en velours rouge, une belle chemise à fleurs à jabot, un chapeau haute forme. Vous êtes super chic, vous avez une montre à gousset.
Voici un humain qui est venu se présenter à la mairie de Figeac, qui s'appelle Mathieu Mazoric et qui a dit « Bonjour, je suis intermittent du spectacle depuis 20 ans, je travaille dans la rue et sur les marchés. » Donc c'est une chose qui me fait beaucoup de plaisir, rencontrer les gens, leur donner envie de sourire, de partager quelque chose, simplement un moment de partage, voilà. Merci beaucoup, belle journée Aurélie, merci. À bientôt.
Merci à vous. On va par où, Marie-Hélène ?
Alors, on peut faire le tour pour revenir.
Allez, on va faire le tour.
Lyon, ouais. Mais on peut faire le tour par les petites rues derrière.
Bien sûr.
Mais vous savez, on a beaucoup parlé des producteurs locaux, mais il y a même des producteurs du Cantal, et de l'Aveyron, parce qu'on
Tout près au cœur
de l'Aveyron, dont monsieur est originaire, d'ailleurs.
Bonjour, monsieur.
Ben voilà, je suis de l'Aveyron, pur.
Vous êtes un pur de l'Aveyron.
Pur, pur.
Et qu'est-ce que vous remballez, là ?
Saucisses, saucissons, jambon, fritons.
Mmh. au pays de Champollion.
Voilà.
Et c'est grâce à Champollion que vous êtes là, monsieur.
Oui.
Pourquoi c'est grâce à Champollion qu'il est là?
Parce que Champollion, quand même, et le musée en particulier, est très attractif. Figeac, en 40 ans, s'est transformé.
Ouais. Figeac, c'est la petite sœur de Cahors.
C'est une sous-préfecture tout de même. Mais c'est une ville de 10 000 habitants. Je dirais qu'elle a une politique économique, culturelle, sportive d'une ville de 30 ou 40 000 habitants. Les gens sont extrêmement gentils. Il y a une vraie convivialité. Parfois toute simple, juste le sourire quand vous allez derrière un guichet, vous avez un sourire. Et puis Figeac est... On peut dire que Figeac est une ville à la campagne, comme disait un célèbre écrivain.
C'est Alphonse Allais qui disait ça?
Oui. Il disait, ce qui serait bien, c'est de bâtir toutes les villes à la campagne. Bon, de tous les points de la ville, vous voyez les collines aux alentours. Et c'est une ville ancienne, donc toutes les rues, c'est un vrai labyrinthe. On s'y perd.
Là, on s'y perd, on est perdu.
On est passé devant un bar à vin, où j'ai dit bonjour aux amis, évidemment, qui est ouvert.
Bonjour, c'est France Inter.
Mais t'es pas à la retraite?
Mais oui, mais je travaille encore.
On n'est jamais à la retraite ici.
Oui, mais je sais qu'elle est. C'est toujours une active déjà, puis qui s'occupe de Figeac comme plus personne ne sait le faire d'ailleurs.
Pour vous, c'est quoi Figeac? Vous êtes là assis sur votre tonneau au bistrot.
Oui, mais regardez, on lève la tête, vous avez vu ce que vous avez au-dessus? Regardez si c'est beau. Voilà pourquoi j'aime Figeac.
Et vous, vous êtes de Figeac, monsieur?
Oh, je suis un très vieux Figeacois, oui. Je suis né à Paris, mais je suis là depuis 65 ans.
Et vous faites quoi à Figeac? C'est quoi votre boulot?
Plein de choses. Moi, j'étais opticien pendant des années. Maintenant, je suis à la retraite. Mon fils a une agence de communication. Jean-Pierre est agent immobilier. Il a une...
Retraité actif dans une activité d'agence immobilière.
Alors, monsieur l'agent immobilier, c'est cher de s'installer à Figeac?
Alors, l'éventail est très, très large. Il y a de très beaux biens, il y a un marché très dynamique en ce moment, depuis le confinement. Les gens veulent retourner à la campagne.
Tout le monde achète des maisons à la campagne, là c'est la folie pour vous.
C'est de la folie. Non mais c'est de la folie, on a vidé le portefeuille. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas de trouver des acquéreurs, c'est de rentrer des bons mandats au bon prix.
Les gens augmentent leur prix de manière complètement faramineuse.
Exactement. Or, il y a une contrainte évidente, c'est la loi du marché. Si vous êtes au-dessus du prix du marché, à un micro-chouïa près, vous ne vendez pas.
Alors c'est quoi le marché ici? C'est combien le mètre carré?
Ça peut aller à 2 000 euros le mètre carré pour des biens un peu plus de standing. Ça dépend vraiment de l'état du bien.
Ouais, donc là, on assiste quand même à une folie furieuse de l'exode urbain.
Très clairement, c'est une exode parce que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler en télétravail. Donc ils se sont dit pourquoi faire respirer des micro-particules à nos gamins? Allons en campagne.
Est-ce que vous, ça vous angoisse l'idée de voir les Parisiens débarquer ici après le confinement?
C'est pas moi, un Parisien, qui vais vous dire ça. Non, ce que je peux, c'est vous dire qu'effectivement, il faut venir ici. Quoi.
On me dit que ça fait monter les prix pour les gens qui vivent ici aussi. C'est ça le problème?
Indéniablement, c'est vrai. C'est vrai partout.
C'est vrai en Bretagne, c'est vrai dans le Lot, c'est vrai dans le Sud-Est, c'est vrai dans le Centre, même dans la Creuse.
Vous êtes Parisien, vous avez un petit appartement, vous le vendez. Et vous voulez recycler l'argent de ce petit appartement dans le Lot. Vous pouvez avoir un manoir. L'intérêt du vendeur, c'est de vendre au meilleur prix. Ce n'est pas parce qu'on va vendre à quelqu'un du Lot qui va baisser le prix. Non, ça. Mais madame, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché.
Elle est rude, la loi du marché, monsieur.
Bien sûr qu'elle est rude. Mais il n'y a pas de sentiment. Hein. Tous ces gens qui viennent dans le bassin d'emploi, les jeunes souvent, et qui n'arrivent pas à se loger, il faut une politique des collectivités locales pour loger ces gens-là.
C'était très intéressant de converser avec vous, messieurs. Je vous laisse finir votre rouge à cette heure-ci.
Oui,
c'est l'heure du rouge. Le café, l'anisette et tout ce qui s'ensuit.
Avec plaisir. Merci.
Allez, on retourne au café.
On va les laisser à l'apéro. En passant par la place des Écritures, c'est le plus direct.
On va passer par la place où il y a la pierre de Rosette.
Avec la pierre de Rosette, inventée par Joseph Kossuth, un artiste conceptuel américain.
On peut marcher dessus, c'est pas péché.
Sur le grec ancien, ici. Ensuite, nous allons passer dans le démotique.
Là, on marche sur le démotique?
On marche sur les démotiques, qui est une écriture, une cursive égyptienne. Et là, on va entrer dans les hiéroglyphes.
Et là, on marche sur les hiéroglyphes.
On se recueille et on voit les noms de Ptolémée, par exemple, écrit là.
C'est beau de marcher sur les hiéroglyphes comme ça.
Et vous êtes sur une place un peu fermée, donc on y fait des spectacles également. On voit les photos de mariés qui se font ici, par exemple, à Figeac. Il y a les jeunes qui viennent boire un petit verre, autorisé ou pas autorisé. C'est vraiment un très beau lieu à Figeac. Oui.
Marie-Hélène, on va rentrer avec vous dans ce musée Champollion parce qu'il y a un objet qui m'intrigue à l'intérieur. Il y a un bol avec des incantations que vous m'avez montré, un petit gros plan sonore sur ce bol.
Je comprends qu'il vous intéresse parce qu'il est magique.
On va voir de la magie ?
Oui, on va voir de la magie.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Marie-Hélène, on est rentrée dans le musée Champollion, on a monté quelques étages, on est dans la salle bleue et on est devant ce bol magique.
Ouais, il vous plaît parce qu'il est magique, c'est ça. Écoutez, vous voyez surtout la petite dame qui est au fond et qui est Lilith, qui est une démone. Elle est comme liée au fond du bol. Et l'inscription que vous avez là est en araméen, judéo-araméen, et c'est une inscription qui va soigner une jeune fille qui s'appelle Gouznadouk, qui est malade. Et l'eau que l'on va mettre dans ce bol va s'imprégner des vertus magiques de l'inscription. Cette jeune femme devra boire l'eau et devra être guérie. C'est l'écriture qui est magique, c'est pas tant l'inscription, les mots qu'on utilise, c'est le fait que ce soit écrit.
Qu'est-ce qui est écrit dans ce bol ?
Que cette femme, Gouznadouk,
celle qui est malade ?
Celle qui est malade, soit arrachée par les cinq eaux de cette amulette, arrachée-la au démon, au mal. Ouais. Voilà. Quand quelque chose est écrit, c'est aussi fort que si la chose existait depuis l'Égypte.
Ce qui est écrit doit s'accomplir.
Oui, ça doit s'accomplir. Et si c'est écrit, si on le craint, on efface le mot et inscrit, et ça efface la menace, la présence d'une personne qui a vécu deux siècles auparavant et dont on ne veut pas garder souvenir, on efface son nom.
On va le décrire, ce bol.
C'est un grand bol de café en terre cuite.
Il date de quand ?
Premier siècle de notre ère. Il vient du Moyen-Orient. Et donc l'écriture occupe tout l'intérieur du bol, sauf le fond qui est occupé par la petite démone Lilith, qui est un peu enchaînée au fond du bol. Hein.
Lilith, on dirait qu'elle est dessinée par un enfant. Elle a une tête carrée, c'est un dessin très primitif.
Oui, on fait ça vite. C'est tellement courant, cette magie de l'écriture. On fait un dessin rapide, il n'y a aucun problème. La représentation, elle est là. C'est ça qui est important. Mais Lilith, c'était la démone du le fameux Dewa. Dewa, c'est le mot divin dans notre écriture, dans notre langue, je devrais dire. C'est aussi entre l'Inde et l'Occident. C'est le symbole du mal au féminin. On peut croire que c'est le mal n'est que masculin. Ben non, pas du tout. Il est aussi représenté par des femmes.
Vous croyez au pouvoir magique de l'écriture ?
L'écriture peut être très forte, que ce soit des mots d'amour et des mots de menace. Il n'y a qu'à voir les mots qui sont sur Internet aujourd'hui, tout simplement.
Les réseaux sociaux, on est dans la magie d'aujourd'hui ?
Exactement.
Dans la magie noire un peu.
Oui, parce que l'agressivité, la méchanceté, ce n'est pas seulement des coups, des physiques, c'est aussi le mot peut blesser très fort. Aujourd'hui, on ne dirait pas que le mot est magique, mais le mot blesse ou le mot réconforte.
Le mot tue ?
Et le mot peut tuer.
Yeah.
C'était Cybelle qui chantait le train.
Vous êtes bien sur France Inter. Ici, nous avons tous rendez-vous Place du Marché, sous la Halle, à Figeac, dans le Lot et le Célé.
C'est ma radio, France Inter. Voilà.
Et puisqu'on parle de train, Dominique Guéret, vous êtes président du conseil d'administration de la RAICOP.
Oui, tout à fait. Je suis président de RAICOP, qui est une coopérative qui va faire rouler des trains très prochainement. Hein. On est dans l'économie sociale et solidaire.
Avec vous aussi, Catherine Vantôme. Vous rêvez d'habitat multigénérationnel. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc nous avons le projet d'un habitat participatif, écologique et surtout intergénérationnel, parce qu'on ne veut pas être vieux entre nous, on veut aussi partager. On a beaucoup de choses à partager avec tout le monde.
Des vieux, des jeunes, tout le monde dans la même bouillotte.
Tout le monde dans la même bouillotte, exactement, oui.
Et à ma droite, Michel Tessédou. Vous arrivez d'un village à côté qui s'appelle Parlant et vous êtes le maire de ce village et vous avez décidé d'offrir des terres gratis pour repeupler Parlant.
Alors d'abord, la genèse de cette idée part du fait que nous avons été traumatisés par la perte d'un poste d'enseignant sur notre école qui en avait 3 et nous avons craint pour l'avenir de cette école. Et donc nous avons décidé de faire une politique inédite qui consiste à offrir des terrains à bâtir. Ça part d'un concept très simple qui dit que tout ce que tu peux donner dans la vie pourrait fleurir, et vraiment ça a fleuri pour nous.
Et est-ce qu'on va récolter le train grâce à vous, Dominique Guéret? Vous travaillez sur un projet de coopérative pour faire revenir le train ici et cette ligne horizontale Bordeaux-Lyon qui nous manque parce que tous les trains mènent à Paris et tous les trains descendent de Paris jusqu'en province.
Oui, l'idée, elle est d'abord de défendre l'usage du ferroviaire, de remettre le ferroviaire au goût du jour. Et d'autre part, effectivement, on constate qu'il y a des grandes radiales avec du transport de masse entre Paris et les grosses villes de province, mais il n'y a rien en transversal. Alors qu'il existe des gares, il existe des voies ferrées, il existe plein d'équipements, l'idée c'est de refaire joindre ces métropoles entre elles, ces petites villes et ces villes rurales aussi entre elles, de rassembler les hommes au niveau rural. C'est redynamiser les territoires ruraux dans ce sens-là.
Ce que j'aimerais comprendre dans votre coopérative, qui a des milliers d'adhérents maintenant...
8200 sociétaires.
Ce sera indépendant de la SNCF ?
Alors bien sûr, on est une entreprise privée, hein, c'est une SA, dans ce sens-là, même si elle est coopérative, et même si dans ce type de coopérative, les collectivités locales et territoriales peuvent rentrer au capital de ces entreprises. Et c'est intéressant, elles l'ont bien compris, et qu'à voir sur le parcours entre Bordeaux et Lyon, presque toutes les collectivités, qu'elles soient des petites communes, des communautés de communes, des départements, le département de l'Allier, le département de la Creuse, etc. Ces gens-là ont bien compris que c'était un levier pour pouvoir redynamiser ces territoires. Donc ils rentrent au capital de RAICOP.
Ce sera votre train, c'est pas un train de la SNCF, qui va le fabriquer ce train ?
Alors effectivement, nous allons opérer, on est complètement indépendant de la SNCF. Par contre, on va payer des péages pour rouler sur les lignes de SNCF Réseau. Mais après, on va avoir nos propres trains, nos propres agents, le personnel en gare pour faire l'accueil. Ces trains-là, il va falloir les acheter, les rénover. On va acheter des trains d'occasion parce que pour construire des trains neufs, il faut 4 ans. Des trains, entre autres, des régions Rhône-Alpes-Auvergne, de Normandie aussi. On va les restaurer dans l'année qui vient.
Pour vous, Dominique, le train idéal, il a quelle tête ?
Le train idéal, il est aussi un peu à l'éloge de la lenteur. Hein. Si on traverse ces paysages-là, effectivement, ce n'est pas du TGV. Alors, on ne remplace pas les TER. On n'est pas en concurrence directe avec la SNCF. On ne peut pas, d'ailleurs. Hein. Les régions sont en capacité. Ah, là, non, vous ne pouvez pas rouler parce que nous, on a un TER. Et donc, on ne peut pas être en concurrence avec le service public. C'est déjà établi. Donc, il faut qu'on choisisse d'autres horaires. Alors, en juin 2022, on pourra monter dans un train RAICOP sur la ligne entre Bordeaux et Lyon.
Michel Tessédou, ça vous fait rêver ce RAICOP ? Ça vous fait rêver ce train ?
Moi, je trouve cette initiative formidable et ça me rappelle à quelque chose que l'humanité connaît depuis la nuit des temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, nécessité peut faire loi.
Vous êtes un ancien paysan ?
Je suis un paysan qui est à la retraite, mais qui est toujours au cul des vaches et c'est mon bonheur. Je suis le maire de la commune de Parlant, une petite commune qui est voisine du Lot. Nous sommes séparés par un ruisseau qui s'appelle le Veyre.
Voilà, entre le Veyre et nous. Et si je vous ai invité, c'est parce que vraiment, vous avez une initiative qui m'a tapé dans l'œil. Vous avez eu l'idée d'acheter des terres et de les donner à des gens pour qu'ils viennent s'installer et pour qu'ils viennent repeupler la commune.
Quand on est une commune à 35 km de la ville-préfecture, quand on a peu d'attractivité, Et quand on a un besoin éminent de développement démographique et notamment de jeunes familles pour avoir des élèves qui permettront de sauver et de récupérer le troisième poste que nous avons perdu, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. D'offrir du terrain à bâtir avec le produit de la fiscalité qui était réservée à une minorité, mais ceci au nom de l'intérêt général. L'intérêt général étant d'accueillir des familles nouvelles pour développer la démographie.
Vous êtes passé de 280 à 480 habitants grâce à votre politique de cession de terrain.
Oui, nous offrons des terrains à bâtir.
Vous avez doublé.
On a presque doublé. Nous avons accueilli 25 jeunes couples. Nous avons récupéré 25 élèves à l'école. Et aujourd'hui, nous avons 3 postes avec 50 élèves. Et nous sommes extrêmement heureux d'avoir ouvert les bras à ces populations nouvelles. Et la meilleure manière de les accueillir, c'était quand même de leur offrir un terrain à construire qu'ils n'avaient pas à payer puisqu'ils l'ont obtenu pour 5 euros non recouvrés.
Alors, est-ce qu'il y a des conditions ? Est-ce que quand on s'installe à Parlant sur ce terrain gratuit, est-ce qu'on doit faire quelque chose en échange ?
Alors, premièrement, on doit être primo-accédant ou dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Deuxièmement, on doit évidemment s'engager à construire. Troisièmement, on s'engage à résider au moins 10 ans. Et si on ne respecte pas ces 10 années de résidence, on reverse à la commune une indemnité.
De combien ?
5 000 euros. C'est très raisonnable. Mais vous savez, l'assimilation.
Jusqu'à présent, ils sont restés ?
Ils sont restés. Quelquefois, il y a eu des départs pour des raisons de problèmes de santé, mais c'est très rare. Par contre, l'assimilation se fait autour du monument aux morts. Lorsque les enfants de ces nouvelles familles lisent les poèmes qu'a préparé la directrice et que les parents, pour admirer leurs enfants, répondent « Mort pour la France », le maire que je suis est très heureux.
Est-ce que si nos auditeurs de France Inter ont envie de s'installer à Parlant, est-ce qu'il reste des parcelles ?
Alors s'il n'y en a plus, on en créera pour eux.
C'est
vous
vrai.
Pouvez nous les envoyer.
Je peux vous les envoyer ?
Absolument. On est en train d'acquérir du terrain supplémentaire parce que les 25 lots qu'on avait prévus sont tous attribués. Et là, on est en train d'acheter encore un hectare.
Vous avez reçu quel genre de population ? Qui vient s'installer à Parlant ?
Alors vous savez, on a eu par exemple un couple de la Seine-et-Marne qui est arrivé. On a des couples de l'Aveyron, on a des couples d'un peu partout et on n'est pas en train de piquer les couples des communes voisines. On ratisse beaucoup plus large que ça, donc on joue collectif.
Voilà. Vous n'êtes pas un voleur de couples ?
Absolument pas.
Ni un briseur de couples. En fait, même. Et surtout, vous êtes peut-être un faiseur de couples.
Mais ce que je peux vous dire, que s'il y a des couples qui veulent vivre dans un écrin de nature, un vrai projet de vie, on sera très heureux de les accueillir.
Il y a du boulot à Parlant ?
Il y a du boulot. Quand il n'y en a pas, on le crée. Par exemple, il y a un couple qui a créé un salon de coiffure et qui est un véritable succès. Elle a commencé toute seule et maintenant elle a 2 salariés et on va lui créer un nouveau salon de coiffure.
Dominique Guéret, vous voulez réagir ?
Oui, mais alors, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai, quand les citoyens se redressent les manches, ils font des merveilles. Ils font des merveilles ensemble. Et voilà, c'est le monde coopératif, c'est le monde à un niveau d'un couple, etc. dans un village. C'est ça, il suffit de redresser les manches et puis on y va. Et ça fonctionne.
Est-ce que vous croyez qu'on peut tous se débrouiller par nous-mêmes, c'est-à-dire en coopérative, en fraternité, en collectivité, sans avoir forcément besoin de l'aide de l'État ?
Est-ce que vous croyez qu'on peut faire votre bonheur, ma chère madame, malgré vous ? Non.
Alors, je ne suis pas sûre, non.
Eh bien, voilà. Non. Donc, il vaut mieux que vous comptiez sur vous que sur les autres pour vivre votre bonheur. C'est ma devise.
Bien dit, vous avez dit. Bien dit, Catherine.
Oui. Ah oui, vraiment, c'est bien dit. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, là. Super, merci.
Allez, à fond.
Merci à vous. Ah oui, à fond, à fond.
Vous n'allez pas monter cet habitat multigénérationnel, intergénérationnel à Parlant. Vous allez le monter ici, à Figeac. Vous-même, vous êtes à la retraite et vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de jeunesse, c'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, le projet est sorti après le premier confinement. On s'est retrouvé seul chez soi et franchement, oui, ça a été quand même assez dur, même si on a un cadre de vie exceptionnel. Enfin, l'idée est partie d'une jeune fille, ce qui est quand même exceptionnel, qui a dit, oui, il n'y a rien pour les personnes entre deux, les jeunes seniors, qui permettent de vivre ensemble.
En regardant votre histoire un petit peu, Catherine Vantôme, et l'histoire de cette aventure collective entre les anciens et les plus jeunes, je me dis que c'est une alternative à l'EHPAD. Le mot EHPAD, ça fout le bourdon, quoi.
C'est une alternative à l'EHPAD dans le sens où on peut éviter d'y arriver, d'être dépendant et tout, en étant, je pense, en gardant une vie active et en gardant surtout des relations avec d'autres et surtout avec des plus jeunes. Enfin, on peut mieux vieillir. pas se laisser enfermer chez soi, ne pas bouger, être. Enfin, ce qui permet quand même de rester jeune, c'est quand même la relation avec les autres, c'est quand même l'ouverture sur l'extérieur. Et si on est seul chez soi et qu'à un moment, eh ben, il nous arrive quelque chose, comme un confinement par exemple, on est là, mais moi c'était horrible, quoi. Je ne pouvais même plus aller voir mes enfants qui habitent plus loin. Là, je me dis, si on arrive à aboutir avec ce projet-là, on aura toujours du monde autour de soi, on ne sera jamais seul. Et ça, ça permet justement de vieillir moins vite, je pense, et mieux vieillir.
Oui, moi je trouve cette initiative extraordinaire parce qu'elle permet de différer le moment fatidique où on bascule dans la dépendance et où commence le naufrage de la vieillesse. Garder de l'autonomie à vivre chez soi dans un cadre intergénérationnel, c'est une action de salubrité publique et d'intérêt général. Et moi, franchement, j'admire tous ceux qui s'investissent dans cette stratégie.
Vous cohabitez pas dans votre maison, chacun chez soi, expliquez-moi mieux.
Générationnel au milieu.
Oui, on recherche un terrain et on en a deux en vue là qui vont être. Et donc on aura chacun chez soi, on aura chacun son appartement, petit ou grand selon la taille des familles. Et des espaces collectifs, c'est-à-dire qu'on va mutualiser tout ce qui est, par exemple,
la cuisine.
On aura quand même chacun sa cuisine chez soi.
Quels espaces vous aurez en commun, par exemple, le potager, les voitures ?
On aura forcément le jardin partagé, si on a le terrain suffisamment grand. On aura la mutualisation des outils de jardinage, on aura la buanderie, avec l'espace jeu pour enfants qui sera collé à la buanderie pour qu'on puisse aussi avoir cet espace de liberté, et les enfants aussi. On a dit, ouais, un terrain de pétanque, et surtout...
Une piscine, est-ce qu'on aura une piscine ?
Ça dépendra du budget. Évidemment, dans les rêves de départ, on avait mis la piscine. On verra, c'est pas complètement fermé.
Et vous, vous voulez la faire où, Michel Tessédou, votre retraite ?
Moi, je veux la faire en faisant des copeaux de bois. J'ai du chêne qui sèche, et mon rêve, c'est de faire des meubles.
Et quand vous aviez 7 ans, Michel Tessédou, quand vous étiez dans ce village à Parlant, vous avez vu la première mécanisation, le premier tracteur ?
J'ai vu arriver un tracteur de 16 chevaux qui n'arrivait pas à sortir le tombereau rempli de pommes de terre alors que la paire de bœufs y arrivait. Mais je conduisais mieux le tracteur que mon papa et donc j'étais très très fier.
Cette évolution du monde paysan, vous l'avez vue sous vos yeux ? Et quel regard vous avez aujourd'hui sur l'époque ?
Je veux dire, les vérités sont toujours aussi simples et on ne peut pas gagner plus en travaillant moins. Et puis on est toujours soumis entre le ciel et la terre. Je veux dire, vous vous couchez le soir avec un programme de travail pour le lendemain vous vous levez, dans la nuit il s'est passé un truc qui vous a foutu votre programme de travail en l'air. Ça s'appelle l'humilité. Nous ici, on est des gens de la terre. Paysan, ça veut dire fils du pays. C'est le terrain qui a toujours raison. C'est la nature qui produit les sécheresses, c'est la nature qui produit les inondations, et c'est le paysan qui façonne les terres. Parce que la beauté de nos paysages, et tout particulièrement dans le Lot, c'est quand même le travail de plusieurs générations de paysans. Hein. Vous supprimez l'agriculture et vous ne visitiez plus jamais le Lot.
Marie-Hélène Potier, on a traversé ce marché avec vous en première partie d'émission. Archéologue, ancienne conservatrice du musée Champollion. Est-ce que les terres de France s'écrivent par les paysages façonnés par les paysans, puisqu'on parle d'écriture avec vous?
Les paysans écrivent sur la terre par leurs gestes, on revient aux gestes. Vous avez aussi des mots intéressants comme une écriture au boustrophédon.
Et boustrophédon.
Boustrophédon, c'est une écriture, vous commencez de gauche à droite et vous allez de droite à gauche, puis de gauche à droite et de droite à gauche. Comme les bœufs dans un champ. C'est le même geste en fait.
Au revoir monsieur le maire de Parlant, Michel Tessédou.
Bonsoir, madame la journaliste, vous avez eu un coup de cœur pour nous et nous on a vraiment un coup de cœur pour France Inter, alors à très bientôt.
À très bientôt. Comment on pourrait écrire ce qui se passe ici puisqu'on parle d'écriture ?
Moi je pense que ça s'écrit par la transmission entre générations et la transmission du savoir et la volonté de faire vivre ce terroir, c'est une belle écriture. Car nous sommes les gens qui empruntons le futur, nous. Nous avons une dette par rapport à nos enfants. Il ne faut jamais l'oublier.
Ciao. Bon retour à Parlant.
Hasta luego.
Hasta luego. Régis Daniel, bonjour.
Bonjour Aurélie Sfez.
Vous êtes professeur dans un lycée public à Cahors, professeur de musique.
C'est exact, depuis maintenant pratiquement 15 ans. Et je suis arrivé donc dans le Lot il y a de ça 20 ans. J'ai beaucoup tourné dans énormément de collèges, des petits collèges, Et après, je suis arrivé dans un lycée où il n'y avait pas d'option musique. Je suis arrivé dans ce lycée Clément Marot à Cahors. On a commencé avec 6 élèves. C'était configuration groupe rock. Et il se trouve que quelques années après, en 2011, j'étais à la tête d'un chœur et orchestre de 120 élèves. Et on a joué à ce moment-là le très fameux Requiem de Verdi. Alors je suis parti d'un style rock assez garage, assez engagé à mon arrivée au lycée. Et quelques années après, j'étais avec du Requiem de Verdi. C'était assez extraordinaire comme évolution.
On nous a amené la pompe à huile.
Ouh là là, alors ça, c'est vraiment pour les initiés. C'est riche, voilà. C'est très riche.
Mais avant tout, on va écouter un peu de musique, puisqu'on va parler musique avec vous, Régis. Je ne vais pas vous demander si vous aimez la musique, parce qu'on a déjà la réponse.
On va écouter Lord Solar Power.
Solar Power.
La Forza del Sol.
La Forza del Sol.
Et c'est le choix de Chewbacca.
Acid green, aquamarine, the girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like video Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink 3 times when you feel it kicking in. That's
sur France Inter, évidemment, avec Aurélie Sfèze.
Alors, comment ça va, Régis? Vous êtes arrivé de Cahors avec vos élèves. Vous avez fait un petit chemin.
Oui, on a fait la vallée du Lot. Je suis arrivé avec Lucie et Sarah.
Vous avez des élèves qui ne sont pas forcément musiciens au départ, qui viennent d'un monde plutôt agricole. Comment vous avez réussi à les attirer et à monter comme ça des chorales avec lesquelles vous faites des tournées incroyables?
Bon, en fait, oui, j'ai un public très, très hétérogène. Mais bon, ça, c'est, je crois, le propre de tous les profs de musique. Et c'est vrai que dans le Lot, bon, on a autant des élèves qui sont dans une famille, par exemple, de cadres, mais aussi d'agriculteurs, comme vous l'avez dit, d'artisans. C'est extrêmement varié. Ce qui est très varié aussi, c'est les niveaux instrumentaux et musicaux de manière très générale. Des élèves qui savent lire la musique, des élèves qui ne savent pas du tout, plutôt orientés rock, d'autres plutôt classiques. L'objectif, c'est d'arriver à mettre tous ces élèves ensemble, et c'est un petit peu, mon travail, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire au lycée Clément Marot, avec un chœur et un orchestre, et on essaye de conjuguer tous ces talents autour d'un programme qu'on veut toujours éclectique. Alors ça, c'est très important aussi, faire du classique, du baroque. Cette année, par exemple, on a fait un petit peu de Jean-Philippe Rameau, mais après, on a aussi joué des musiques des années 70. Eh bien, par exemple, Elton John, Your Song, qu'on va vous interpréter là tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Ouais.
Moi, je m'imagine que vous avez pu créer des vocations. Si on rentre un peu dans l'image d'Épinal, d'une ville moyenne comme Cahors, en plein milieu de la campagne, on se dit que ça doit être génial d'être prof de musique, d'apprendre à des futurs musiciens professionnels. Est-ce que vous avez comme ça suscité des vocations parmi vos élèves ?
Ah oui, je suis très fier d'en avoir suscité et de voir notamment des élèves qui, après le bac, se dirigent vers des études musicales qui peuvent être la musicologie, par exemple. J'ai un élève qui, en ce moment, écrit une thèse sur l'esthétique des musiques des jeux vidéo. Il y en a d'autres qui se dirigent vers, par exemple, la musicothérapie, ce qui est assez, assez original, et je pense que c'est une discipline d'avenir, en devenir et d'avenir. Il y a des élèves qui sont musiciens, des élèves qui font leur carrière dans de grandes capitales européennes.
Quand ils sont arrivés en seconde, ils ne connaissaient pas la musique.
Ils connaissaient la musique, ils avaient un niveau instrumental intéressant, ils avaient cette passion, et le travail, c'est un petit peu de la développer, de leur montrer que c'est possible de vivre de sa passion. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont passionnés de musique, qui ne veulent pas en vivre, qui ne veulent pas en faire leur métier, mais qui ont envie comme ça d'avoir une culture musicale, une culture artistique, à qui on apprend un peu à distinguer la bonne et la mauvaise musique.
Alors c'est quoi la bonne et la mauvaise musique? Comme il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs.
Les mauvaises musiques sont pour moi des musiques avec des intentions strictement commerciales, et les bonnes sont celles où on sent vraiment une volonté de la part du compositeur ou du musicien, une volonté de recherche créative, de nouveauté.
Vous avez dépoussiéré un peu l'image qu'on se fait du professeur de musique. Hein.
C'est essentiel. C'est un art du partage. Et c'est pour ça que c'est essentiel. C'est parce qu'il se partage, et ce qu'on fait en lycée et ce qu'on fait aussi en collège, parce qu'il y a une très grande tradition aussi des chorales dans le Lot. On organise ce qu'on appelle les rencontres chorales départementales. C'est ce partage musical. En fait, on réunit tous les collèges du Lot autour de projets communs. On travaille un répertoire toute l'année et ensuite on fait des concerts. À Figeac notamment, ou alors à Cahors, des concerts où plus de 350 collégiens chantent ensemble.
Et ça vous fait quoi quand vous les voyez tous chanter ensemble? C'est vous qui dirigez en plus.
C'est des moments très très forts. C'est des moments où vous réalisez finalement le travail de toute une année, et ce travail se fait en fédérant tous ces jeunes. C'est ça qui est assez magique.
Marie-Hélène Potier, la musique c'est de l'écriture. Est-ce qu'on a des partitions? Est-ce qu'on a de la musique écrite au musée Champollion?
On en a une qui vient du Tibet. On a beaucoup de mal à retrouver les partitions anciennes. Il y en a, je crois, quelques-unes. Il y en avait, mais elles sont notées de façon extrêmement étrange pour nous. C'est juste des intonations, plutôt. Ce ne sont pas des notes, c'est beaucoup moins...
C'est des hauteurs, un peu.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins précis qu'aujourd'hui, la notation de la musique.
J'aimerais bien interroger un tout petit peu vos élèves. Est-ce que vous me les présentez, ces jeunes filles?
Alors... vous avez Sarah, qui est en EDS spécialité en terminale et qui, je crois, a brillamment eu son bac.
Donc toi, tu étais en spécialité musique?
C'est ça, spécialité musique avec Monsieur Régis Daniel. Moi, je chante et je fais de la guitare aussi, mais m'accompagner plutôt.
Et à côté, en face de Sarah?
Lucie.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et ton instrument, c'est quoi?
Je chante et je fais de la basse.
Et est-ce que vous allez continuer la musique toutes les deux à la fac, en musicologie, au conservatoire?
Moi, je pars à Paris faire de la musicologie à la Sorbonne.
Fierté, Régis Daniel?
Grande fierté.
Et toi, Sarah?
Et moi, je vais au Concertant de Toulouse l'année prochaine.
Et est-ce que vos parents connaissaient la musique, comme on dit?
Mes parents n'ont pas du tout fait de musique. Je pense que c'est vraiment Régis, grâce à ces 3 années lycéennes, qui m'a transmis cette passion.
C'est vrai? Vous l'adorez, votre prof?
Ah oui. On ne serait pas là aujourd'hui, sinon. Il va au-delà de son rôle de prof, il organise tellement de concerts, de voyages, il transmet vraiment sa passion, que ce soit de l'analyse comme de la pratique.
Qu'est-ce que vous allez jouer, qu'est-ce que vous allez chanter, Sarah?
On va chanter avec Lucie, Your Song de Elton John, version acoustique du coup, avec le prof.
Avec le prof?
Avec le prof.
Avec le prof à la guitare, ici, sur France Inter, à Figeac, sur la place du marché.
Ça va aller?
C'est un chant que vous avez préparé?
Alors, c'est un chant qu'on a fait cette année avec le chœur et orchestre. Donc, c'était un arrangement pour chœur et orchestre. C'est un chœur, on va dire, miniature, puisqu'ils ne sont que deux et moi la guitare. C'est ce qu'on appelle une réduction.
Mais pourtant, ce n'est pas une réduction à l'écoute.
On va essayer.
I'm no one of those who can easily hide away. don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I were a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Why? Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the closest eyes I've ever seen. And you can tell everybody you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
En fait, il y a plein de gens qui ont peur de s'exprimer, de chanter. Et il ne faut pas avoir peur, il faut passer le pas. Et puis, avec quelqu'un qui a envie de vous accompagner sur ce chemin, vous finissez toujours par y arriver.
C'est beau.
Elle chante magnifiquement bien.
On a amené du ratafia.
Ah, waouh, du ratafia. J'adore ça. Du ratafia, c'est fait à base de ce qui reste du jus de raisin qui est macéré avec de l'alcool.
C'est surtout, un jus de raisin costaud.
Si on le boit très frais, c'est très traître. Mais du coup, comme le raisin n'est pas fermenté, ça garde tout le fruitier, tout le sucré du raisin.
Le ratafia accompagné de la pompe à huile, c'est plutôt un dessert, la pompe à huile, qu'un apéro. Mais moi, j'ai une passion pour la pompe à huile, Régis Daniel.
Ah, mais il faut être passionné. Il faut être passionné par le ratafia à la pompe à huile. C'est évident.
Vous mettez du Nutella, vous aussi, sur la pompe à huile?
Non, mon fils met du Nutella sur le cabécou, mais pas sur la pompe à huile.
Vous en voulez tous du ratafia?
Oui, bien sûr.
Il faut en servir autant? Oui. Marie-Hélène Potier, vous êtes amatrice de ratafia?
Oui, absolument. Surtout quand c'est arrosé de vieilles prunes.
Et la pompe à huile, ça vous...
Alors là, j'ai rarement goûté à la pompe à huile. Ça, je suis... c'est très difficile.
Ça passe pas pour vous, la pompe à huile.
Un peu de friton dessus et c'est parfait.
Oh mon Dieu. À la vôtre.
Santé.
Chin, Régis.
Chin, à la vôtre.
Fijacois, Fijacoise. Merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou ailleurs.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission a été réalisée par Charles de Cilia.
Elle a été préparée par Raphaël Pluskeva et Julia Martin.
Et merci à Anna de l'Office de tourisme de Figeac.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et demain, vous retrouvez Antoine Lee à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre.